changé. C'est le monde à l'envers sur les quais, donc c'est la révolution des quais. Voilà. Donc le début de la révolution est donc marqué par une grande mobilisation sociale des portefaix, mais aussi de tous les ouvriers. Il y a des luttes très nombreuses en France. Il y a des associations qui se développent. En fait, pour les travailleurs, la liberté, ça s'applique aussi au travail, et c'est la liberté de s'organiser. Voilà. Alors, il y a un rappel à l'ordre qui intervient quand même. C'est la fameuse loi Le Chapelier de 1791, où on explique que la révolution, c'est bien, mais ça ne doit pas être comme ça quand même. Voilà. Donc, je rappelle ce que dit la loi dans son article 1. La loi proclame l'anéantissement de toute espèce de corporation de citoyens du même état, métier et profession. Donc, de manière assez astucieuse, la loi utilise le terme qui désignait les organisations de petits patrons, corporations, et l'applique aux associations ouvrières. Et la loi prétend instituer à une relation égale entre patrons et ouvriers en ne les considérant plus comme des groupes, mais uniquement comme des individus. Voilà, c'est l'individualisation des rapports sociaux. Mais en fait, la loi Le Chapelier vise bien les organisations ouvrières. Elle condamne dans son article 6 ceux qui empêcheraient de travailler, je cite, les ouvriers qui se contenteraient d'un salaire inférieur. Donc là, on voit bien quand même que la revendication qu'il y a derrière, c'est un salaire supérieur. Voilà. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les ouvriers en général, et surtout pour ce qui nous intéresse ce soir, les portefaix nantais, est-ce qu'ils vont se soumettre? Est-ce que leurs organisations vont disparaître? Alors, le suspense, c'est pas énorme, hein, non. Leurs organisations ne vont pas disparaître, elles vont continuer à exister, mais à être illégales, comme sous l'Ancien Régime. Voilà. La loi Le Chapelier, je cite aussi, interdit aux autorités, donc aux municipalités, de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'une profession et d'y faire aucune réponse. Or, les municipalités, comme on l'a vu en 1775, jouent un rôle essentiel dans la régulation des rapports sociaux. Elles répondent à un besoin qu'ont les acteurs du travail d'avoir une régulation, de ne pas être tout le temps en conflit. La loi ne fait pas disparaître le besoin éprouvé par les acteurs sociaux, et donc ce qu'on peut se demander, c'est quelle régulation du travail il va y avoir maintenant. Les années suivantes sont marquées à Nantes comme ailleurs par une forte hausse du prix des denrées alimentaires. Et en 1792-93, les ouvriers de plusieurs métiers s'adressent à la Société du commerce pour obtenir des augmentations. Alors cette société, elle regroupe les négociants, un peu comme ce qui va devenir la Chambre de commerce. Il y avait quelque chose d'équivalent avant, et Napoléon va de nouveau les autoriser. Des accords sont conclus, et notamment pour les portefaix, le 5 août 1793. Je cite un extrait du registre de la Société de commerce. Le citoyen président a annoncé que le motif principal de la convocation de l'Assemblée du commerce était relatif à la d'augmentation des salaires des citoyens portefaix. Une députation des citoyens portefaix s'est présentée et a exposé que les denrées de première nécessité ayant augmenté depuis 6 mois dans une proportion extraordinaire, leur salaire devenait insuffisant à leurs besoins. Le président a observé aux pétitionnaires que ni la société, ni même aucune autorité constituée, donc par exemple la municipalité, ne pouvait, au terme de la loi Le Chapelier, régler le salaire des ouvriers. Que jusqu'à présent, la société en pareille circonstance, c'est-à-dire quand les cordiers, les voiliers, les charpentiers de marine sont venus la voir, la société avait interposé sa médiation comme arbitre entre les parties, mais que ces espèces de jugements conciliatoires, sans faire la loi entre les ouvriers et les négociants, avaient néanmoins toujours été observées comme telles. En conséquence, le président a engagé les pétitionnaires à déterminer eux-mêmes l'augmentation qu'ils croyaient devoir demander. Les citoyens portefaix ont demandé que le prix de leur salaire fût augmenté du double, et la société a accepté, et elle engage les négociants à payer ses salaires. Donc on voit bien qu'en dépit de la loi Le Chapelier, les acteurs continuent d'éprouver un besoin de régulation. La réalité des rapports sociaux les amène à enfreindre la loi. Donc ils prennent des précautions. Vous voyez, le président dit on ne peut pas fixer les salaires, il nous dit que voilà, c'est des espèces de jugements conciliatoires. Mais on voit bien que voilà, ce besoin continue d'exister. Par ailleurs, ce qui est quand même très ferme, c'est le rappel de l'interdiction des organisations. Je cite une déclaration du maire de Nantes, le 22 Thermidor en 2, c'est août 1794. La Convention nationale, l'Assemblée nationale, ne reconnaît plus de corporation et tout citoyen a le droit d'exercer l'État qui lui plaît. Je dénonce au Conseil municipal une infraction à la loi de la part des portefaix. En s'érigeant en corporation, ils s'attribuent tel ou tel quai et prétendent toute leur place être héréditaire en plus. En conséquence, je demande que le Conseil rende une proclamation qui préviennent de rechef tous nos concitoyens que toute espèce de corporation sont abolies, qu'étant instruits que celles des portefaix ont toujours subsisté, il leur soit fait défense de les laisser exister à l'avenir, que les citoyens soient libres de faire décharger leurs effets et marchandises, par qui bon leur semblera. Donc là, on retrouve la condamnation habituelle des organisations. Voilà. Alors ça n'empêche pas qu'il y a encore des délégations de portefaix qui viennent, qui sont reçues, des choses complètement interdites par la loi, mais qui se se font quand même. Voilà. Il me reste combien de temps, tu dis ?
Oh, tu es libre, tu sais, tu parles.
Ça, il ne faut pas le dire. Hein, parce que je sais pas. Voilà. Alors, dans les années suivantes, les conflits témoignent de la pérennité des organisations de portefeuille, de leur pratique et de leur prétention et du besoin de régulation. Alors, je prends l'exemple d'un autre conflit. On est le 5 Fructidor en 10, donc on est dans l'été 1802. Un commissaire de police est sollicité à la fois par des négociants qui se plaignent du fait que de très nombreux portefeuilles veulent faire une tâche qu'ils ont confiée à un petit nombre d'hommes, et il est sollicité à la fois par ces mêmes portefeuilles. Et si les portefeuilles s'adressent au commissaire, c'est qu'ils sont convaincus de leur bon droit. Alors, le commissaire de police donne raison aux négociants, puis le conflit s'aggrave, il faut envoyer 35 carabiniers pour arrêter 38 portefeuilles. Alors, vous voyez le rapport, ça veut dire qu'un portefeuille, ce n'est pas facile à arrêter. Les portefeuilles incriminés s'adressent aux autorités pour présenter leur version, leurs arguments. Alors, je cite quelques extraits de la lettre qu'ils écrivent aux autorités. Les réclamants demandent qu'il leur soit permis de travailler chez tous les magasiniers, donc les endroits où on range les décharges, de leur domicile, par préférence et exclusivement, donc ils revendiquent un monopole, à tous ceux qui ne sont pas de leur arrondissement, de leur quartier. Voilà, on a notre quai à nous, et les autres, ils ont leur quai à eux, il ne faut pas qu'ils viennent chez nous. Les portefeuilles d'un autre arrondissement n'auront jamais à se plaindre que les exposants soient venus s'approprier la préférence qu'ils ont acquise de travailler exclusivement dans leur quartier. Donc, vous voyez, ils sont convaincus de leur bon droit, ils maintiennent leur revendication de monopole sur un quai. Et ils écrivent à qui ? Ils écrivent au commissaire du gouvernement près de la police correctionnelle, et ils lui demandent, je cite, « d'intercéder auprès de la mairie, seule autorité compétente, pour prononcer le sort de la contestation, comme dépositaire des règlements anciennement émanés sur cette matière. » Voilà. Donc ici, on retrouve le besoin de médiation. Les portefeuilles se tournent vers la municipalité, puisque sous l'Ancien Régime, c'était la municipalité qui édictait des ordonnances, des tarifs, etc. Et elle a un peu continué à le faire pendant la Révolution, malgré la loi le Chapelier. Donc on voit qu'il y a ce besoin de régulation qui est quand même ressenti par différents acteurs, les portefeuilles, les négociants, les autorités locales qui ont aussi intérêt à ce que ce ne soit pas la bagarre permanente. Et donc tous ces acteurs vont finalement chercher par élaborer un compromis. Certains négociants estiment en effet qu'il est pertinent de s'entendre avec les groupes de portefeuille. Pour deux raisons, on peut avancer. D'une part, reconnaître à un groupe un monopole, c'est passer un compromis avec lui. C'est en fait s'assurer que ce groupe de portefeuille va travailler de manière régulière, c'est-à-dire qu'il ne va pas exiger de salaire plus élevé. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rechigner à la tâche. Parce que comme vous avez vu, les tarifs ne sont pas tous les mêmes. Parfois, vous commencez un bateau avec une marchandise qui est payée tant. Il y a un bateau qui arrive avec des marchandises qui sont payées plus, ben vous abandonnez. Non, si vous vous entendez bien avec un groupe de portefeuille, il ne va pas vous faire des coups comme ça. Voilà. Vous dites, c'est toujours vous qui ferez ce travail-là, mais vous le ferez correctement. Voilà. Et les portefeuilles doivent aussi renoncer à mettre en cause, renonceraient aussi à mettre en concurrence les négociants. Et d'autre part, il y a un autre aspect qui est important à prendre, c'est que toutes les marchandises ne se chargent pas et ne se déchargent pas de la même manière. Elles ne sont pas conditionnées de la même manière. Et donc, confier le travail à un groupe de portefeuille spécialisé dans un quai, comme ce quai est spécialisé dans un type de marchandise, c'est aussi s'assurer que ces portefeuilles sont capables de bien travailler cette marchandise. Alors, les portefeuilles n'ont pas de hautes qualifications comme les verriers, mais ils ont quand même des tours de main qui font qu'ils sont spécialisés dans un type ou dans un autre de marchandise. Donc je passe sur plusieurs tâtonnements et c'est ainsi qu'on arrive à un compromis. C'est le règlement adopté par la municipalité en 1817. Je cite son préambule. Sur les plaintes répétées du commerce, donc de l'ensemble des négociants de cette ville, à l'égard des contestations fréquentes entre les portefeuilles et des inconvénients qui en résultent pour les opérations commerciales et la tranquillité publique. Et sur les réclamations de ces mêmes portefeuilles. Considérant que depuis longtemps, le besoin d'un règlement de police se fait sentir ici pour le travail et le salaire des portefeuilles. Que cet objet qui, de tout temps, c'est-à-dire il y a depuis des siècles, a fixé l'attention de l'administration municipale, la mérite d'autant plus maintenant que les anciennes ordonnances sont tombées en désuétude par le temps et les effets de la Révolution. Qu'il importe de faire revivre parmi les portefeuilles la subordination sans laquelle tout serait désordre et confusion dans leurs travaux, de fixer les salaires pour soustraire les négociants à l'arbitraire des revendications des portefeuilles. Là, c'est moi qui parle, c'est pas écrit comme ça. Et enfin, assigner aux portefeuilles des quartiers pour leur travail afin de prévenir les disputes entre eux, qu'ils n'aillent pas chercher empiéter sur le travail des autres. Considérant aussi que s'il est juste de protéger le travail des portefeuilles pour le garantir de tout trouble et de tout dommage entre eux, il ne peut, d'après les principes des lois actuelles, leur être accordé de privilèges exclusifs pour le travail en question. Vous voyez le problème ? c'est qu'il faut trouver un compromis qui reconnaisse que chaque groupe de portefeuille a un monopole sur son quai, mais en même temps, il faut respecter la loi qui interdit tout monopole. C'est pas facile, hein, mais ils ont trouvé une solution. L'article 2 stipule, je cite, que tous les portefeuilles travaillant sur les quais de la Loire seront divisés en quatre sections qui seules auront le droit d'y faire les déchargements. Donc, à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que la municipalité accepte la revendication séculaire, pluriséculaire des organisations de portefeuille. On veut un monopole sur notre quai. Le règlement est accompagné d'un tarif salarial, tout à fait interdit. Voilà. Et le maire dit donc qu'il a pris l'avis de tout le monde, de la chambre de commerce, des portefeuilles, ce qui est aussi complètement interdit de consulter les portefeuilles. La chambre de commerce, oui, il y a le droit, hein, mais les portefeuilles, là, il n'y a pas le droit. Voilà. Il rappelle le rôle ancien de la municipalité sous l'ancien régime dans le travail des quais. Et en fait, il insiste sur l'enjeu de l'ordre public. Et c'est comme ça qu'il contourne l'interdiction économique en disant « Moi, je suis obligé de faire la police dans ma ville, sur les quais, et c'est un règlement de police, c'est pas un règlement économique. » C'est le subterfuge. Mais personne n'est dupe. Hein. Enfin, ne serait dupe que ceux qui voudraient bien l'être. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... Bon, donc, c'est comme ça qu'on en arrive donc, à ce compromis qui fonde une régulation, hein, et qui va permettre d'apaiser les conflits. Tous les acteurs y trouvent leur intérêt. Les portefeuilles obtiennent l'assurance d'un travail régulier. Les autorités espèrent garantir l'ordre public. Et les négociants espèrent une bonne marge des travaux. Alors, ce compromis, il va s'instaurer, il va être en place pendant quelques années, hein, pendant quelques décennies. Le maire va jouer un rôle d'arbitrage. On va voir se développer une jurisprudence. Et donc, on pourrait un petit peu comparer le rôle du maire dans ce cadre-là avec ce qui existe dans une autre institution qui est aussi issu de la Révolution française et qui sert aussi à réguler les conflits du travail, qui sont, dans certaines villes, les conseils de prud'hommes. Voilà. On pourrait comparer à cela. Mais au milieu du 19e siècle, pardon, les négociants vont commencer à dénoncer ce compromis. Ils invoquent le progrès technique, la nécessité de soutenir la concurrence avec les autres ports. Ils dénoncent du coup le monopole des organisations de portefeuille qui leur assurerait un salaire trop élevé, qui ralentirait le travail. Les portefeuilles résistent. Mais en 1866, c'est le préfet, hein, c'est pas le maire, parce que le maire, lui, il aimerait bien que les choses restent calmes sur les quais, donc c'est le préfet abroge ce monopole. Les portefeuilles vont alors subir la précarité, c'est un moment d'un âge sombre dans tous les ports de France, hein, mais les luttes des dockers, parce qu'on va changer de mot, vont reprendre avec mes collègues.
Voilà. Oui, on va changer de siècle. Tu parlais de 1861, eh bien, moi je vous emmène en décembre 1966. L'Union nationale des industries de la manutention, l'UNIM, qui est le syndicat patronal, s'en prend avec force à la loi de septembre 1947 qui encadre la profession de docker. La charge est si rude qu'à la lecture du dit document, il apparaît clairement que l'ambition patronale n'est pas de corriger à la marge la loi de 47, mais en fait de l'abroger et d'en finir avec ce qui la rendait exceptionnelle. En effet, pour la première fois, cette loi dote le docker d'un statut qui sécurise son intermittence puisqu'elle lui garantit une petite indemnité en cas d'inemploi, qui est une situation fréquente puisque les trafics maritimes sont par nature soumis à fluctuations. C'est pour l'État et les employeurs également une façon de réduire les incertitudes en sédentarisant une main-d'œuvre jusqu'ici précaire afin que les ports puissent compter au quotidien sur un nombre minimum de bras disponibles. Tous les dockers ne sont pas concernés par un tel dispositif. La loi crée en effet deux catégories de dockers, les professionnels et les occasionnels. Les professionnels, reconnus comme tels par le port, bénéficient d'une priorité absolue d'embauche sur la seconde catégorie, les occasionnels, dont la présence sur les quais n'est pas obligatoire au quotidien lors de l'embauche. Alors, l'article 8 de la loi de 47 fait obligation aux dockers professionnels, je cite, de se présenter régulièrement à l'embauche sous peine de sanction. Mais que veut dire régulièrement ? Le législateur a-t-il été volontairement imprécis ? A-t-il voulu laisser à chaque autorité portuaire sa part d'autonomie dans l'interprétation du texte et donc dans la gestion répressive de la main-d'œuvre ? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les autorités ont bien conscience que la dureté du travail impose des temps de repos. En réalité, ce qui pose principalement souci aux employeurs se retrouve en partie dans un compte-rendu d'une réunion du syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Nantes, réunion tenue le 31 mai 1956, qui demande à la direction du port de, je cite, « dresser la liste des absentéistes ». Mais sous cette étiquette se retrouvent à la fois ceux qui se font discrets sur les quais et ceux qui refusent le travail qui leur est offert. Or, l'article 8 est très clair. le docker est tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le célèbre bureau central de la main-d'œuvre qui gère au quotidien les embauches. Pour le docker, en fait, cette injonction est bien plus dérangeante, et Samuel en a parlé. La raison est simple. Tous les chargements et déchargements ne se valent pas. Certains sont plus éprouvants physiquement que d'autres, certains sont plus rémunérateurs. Et un bon docker sait compter. Il n'entend pas gaspiller sa sueur pour rien, quoi qu'en pense son employeur. Alors, ce refus d'effectuer un travail, en fait, peut prendre deux formes. La première, la moins répandue, est le refus public et collectif d'effectuer un déchargement. C'est par exemple le cas en mars 1984, quand 35 dockers refusent de décharger un bateau d'ammonitrate car ils veulent être disponibles le lendemain pour décharger un navire de billes de bois qui, lui, est financièrement très intéressant. La seconde forme, la plus répandue, consiste à se faire tout simplement discret, en ne pointant pas ou à laisser sa place à un docker qui a peu travaillé ces derniers temps. Il faut savoir, et ça c'est important, même si c'est compliqué à expliquer, il faut savoir que le monde des dockers nantais est à la fois solidaire et hiérarchisé. Sur le port nantais, les dockers sont groupés en équipes, lesquelles sont employées par les entreprises de manutention avec priorité aux équipes donnant satisfaction, équipe 1, équipe 2, équipe 3, etc. L'équipe dite des Bretons est ainsi équipe numéro 1 pour le déchargement du bois. Donc concrètement, un bateau de bois arrive, automatiquement on va charger cette équipe numéro 1, on va prioriser les dockers qui en font partie, et je crois que c'est des équipes de 18 si ma mémoire est bonne. Mais à la hiérarchie au sein des équipes s'ajoute la hiérarchie dans l'équipe. Si un docker veut être sûr de travailler, il faut qu'il soit bien placé dans son équipe. Si un patron manutentionnaire a besoin de 12 dockers, eh bien, il faut mieux qu'il soit le 12e, le 11e, le 10e ou le 9e de son équipe plutôt que le 14e, le 15e, le 16e. S'il est, par exemple, 16e ou 17e, il devra attendre que quelques camarades avant lui ne soient pas disponibles pour travailler pour pouvoir espérer faire ce déchargement. Et s'il n'est pas recruté, eh bien, il ira, entre guillemets, se vendre ailleurs à une autre équipe sur un autre type de déchargement. Voilà. Autre motif récurrent de la grogne patronale, le travail sous intempérie. Les dockers ont en effet une utilisation tactique de la pluie, ce qui irrite au plus haut point les contremaîtres, qui ne maîtrisent alors pas grand-chose, puisque les dockers boulangent, c'est-à-dire travaillent, à leur façon et n'entendent recevoir d'ordre de personne. Le contremaître est donc contraint de se faire discret et de ne pas se mêler de ce qui est normalement son attribution, c'est-à-dire l'organisation du travail. Et nous, les vieux dockers qu'on a pu rencontrer avec Manuel, nous racontaient que des fois, ma foi, il pleuvait un petit peu, mais bon, ils préféraient taper le carton. Donc voilà, ils disaient non, il y a une flaque témoin, donc on ne peut pas les bosser. Et le contremaître essayait de les pousser, etc. Voilà, ouais. Il y a plein d'histoires et d'anecdotes comme ça qui sont assez intéressantes et que vous retrouverez dans un autre chef-d'œuvre qui s'appelle Les Hommes Libres. Voilà, c'est de l'autopromotion. Ensuite, Samuel l'a dit, le salariat repose sur un principe simple, le lien par subordination d'un salarié à un employeur. Or, les dockers se considèrent comme des hommes libres, travaillant pour le port et non pour un patron, quand bien même ils travaillent la plupart du temps pour une même entreprise. C'est le cas à Nantes. Cette indépendance d'esprit a aussi une conséquence très concrète. Ils organisent eux-mêmes le travail sans grande considération, comme je l'ai dit, pour le contremaître attitré de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant, cette volonté de contrôler l'organisation du travail est au cœur d'un échange assez vif tenu lors du congrès de la Fédération nationale des ports et docks CGT en 1938, congrès qui doit se tenir à Nantes si ma mémoire est bonne. Un docker déclare « Je dis que ceux qui font certains travaux à la tâche sont des bêtes de somme. Je pense aussi qu'il y a parmi eux beaucoup d'égoïstes. L'égoïsme entraîne à éliminer certains vieux et aussi à ne penser qu'à soi, sans regarder en arrière si des malheureux n'ont pas de quoi manger. Le travail à la tâche est contraire au progrès des lois sociales. » Alors, égoïsme, voyons voir. François Béagel, qui est le leader des dockers nantais, s'insurge contre cette idée, rappelant comment, à Nantes, se constituent les équipes et la façon dont l'usure des dockers, l'usure physique des dockers, est assumée collectivement. Écoutons-le. À Nantes, dit-il, nous travaillons aux pièces, c'est certain, mais nous avons la possibilité de choisir nos hommes. Le chef de panneau, qui est un peu le contremaître, mais élu par les dockers eux-mêmes, hein, qui est souvent un homme expérimenté, le chef de panneau peut choisir ses 22 ouvriers.
Le camarade Brachu, amputé des deux jambes et qui est obligé de se faire rouler, poussé sur un chariot, travaille. C'est nous qui l'embauchons. Vous voyez, ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce que empêcher l'employeur d'avoir la main sur l'organisation concrète du travail est une façon pour les Nantais de défendre le groupe et d'offrir la possibilité à chaque docker de gagner de quoi vivre. D'où l'importance pour eux, de contrôler ça. Si on laisse tout cela au patron, évidemment, ils vont choisir les plus vaillants, les plus gaillards. En fait, par rapport à cette question, on s'aperçoit qu'à chaque port, il y a sa coutume, ses modes de fonctionnement, ses dérogations, ses accords. Il y a 1000 raisons évoquées pour défendre le recours au travail aux pièces. Il y a évidemment la peur que l'interdiction du travail à la tâche condamne au chômage les dockers trop âgés et pas assez rentables pour qu'un patron les emploie à la journée. Mais par exemple, si vous allez à 7, eh bien les dockers sétois, eux, soulignent que vu la taille de leur port, eh bien ils ont intérêt à travailler vite pour libérer le plus rapidement les quais, pour accueillir un nouveau bateau, parce que sinon, le bateau ne va pas tourner en rond, etc. Il va aller ailleurs. Donc eux, ils sont obligés de travailler vite pour accueillir le maximum de bateaux, et le travail à la tâche, puisque c'est un travail extrêmement qui est lié au rendement, eh bien facilite ça. Donc leur offre une capacité de vivre de leur métier. Ailleurs, à Nice par exemple, les dockers expliquent que le volume du trafic n'est pas suffisant pour faire travailler les dockers toute la semaine. Alors ils disent, nous arrivons péniblement à faire 10 à 12 heures de travail par semaine, mais ça nous permet de gagner une semaine confortable. Alors que veut dire une semaine confortable en 1938, je n'en sais rien. C'est certainement pas la fortune, mais au moins ça permet de vivre une vie entre guillemets prolétaire à l'époque. Et il y a un dénommé Rossi qui s'insurge. Lui, il est du port, malgré son nom, qui pourrait penser qu'il est du sud-est, je crois qu'il est Havrette, mais j'en suis pas sûr. Lui, il dit, quant à être esclave au travail, à la tâche, c'est faux. On l'est moins qu'en travaillant à la journée. Au Havre, donc il est Havrette, les hommes travaillant à terre et payés à la journée ne peuvent s'absenter sans y avoir été autorisés par leur chef direct. Nous n'aurions jamais signé un accord pareil. Lorsque nous avons des camarades qui ont travaillé la nuit ou qui ont un peu trop bu, avoue-t-il, nous leur disons d'aller se coucher et ils touchent quand même leur salaire. Voilà. Et ça, on le retrouve également, nous, quand on a travaillé avec Manuela toujours pour le livre et puis dans notre étude, il y avait le camarade qui a fait la foire un peu la veille, il se pointe au boulot, on lui dit, écoute, au lieu de faire des bêtises, installe-toi, finis ta nuit tranquille, etc. Nous, on va travailler pour toi, mais par contre, le salaire sera égal à la fin. Tout le monde se retrouve avec la même peine. C'est le côté un peu solidaire de la communauté dockère. Donc, derrière la défense du travail aux pièces, on retrouve la revendication toujours de l'autonomie dans le travail. Les dockers se boulangent seuls et gèrent en équipe le travail. Alors, quand l'UNIM, je l'ai dit, propose en 1966 de réformer la loi de 1947, elle va mettre cette organisation du travail au centre de son argumentation. Il faut, écrit-elle, renforcer l'autorité patronale par la création d'un lien durable entre l'employeur et le salarié, en transformant en fait le docker en salarié permanent d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises. L'employeur, enfin reconnu comme tel, pourra de cette façon reprendre en main toute l'organisation concrète du travail et imposer sa logique. Je cite l'UNIM, « Souplesse dans les horaires de travail, meilleure harmonisation des salaires par une meilleure évaluation des normes de travail, suppression des pratiques restrictives, là alors ils font référence aux coutumes nantaises, les compositions d'équipe. On considère que pour décharger un bateau de bois, il faut être 12 ou 15 ou 16 ou 18, etc. Et ça n'a pas changé depuis des décennies. Les patrons considèrent qu'avec l'évolution du matériel, eh bien, le travail peut être fait avec moins de dockers. Voilà. Ou encore le poids des palanquées. On considère depuis 1945 que les palanquées ne doivent pas faire au-delà de, je sais pas, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Là, on considère qu'avec le nouveau matériel, on peut aller beaucoup plus loin. Ça veut dire moins de rotation de la palanquée, ça veut dire plus d'argent à la fin. La logique est connue. Le patronat également veut dépister les accidentés récidivistes. Alors là, il y a deux regards possibles. Il y a à la fois le docker qui est très malchanceux, voilà, et puis il y a aussi le fait que c'est un boulot extrêmement dur, voilà, et que les gens s'abîment à travailler 6 heures ou 7 heures par jour à soulever des caisses et des caisses, quoi. Enfin, pour eux, ce qui est important, la réduction du nombre de dockers par la suppression donc de la carte des dockers professionnels pour inaptitude, pour absentéisme répété, mais également, et ça c'est à signaler, ils ajoutent, pour voie de fait ou sévice exercé contre un supérieur. Oui, des fois les rapports sont, on va dire, rugueux. Et puis, ce qu'il vise également, pour finir, tout cela, toute cette réforme doit permettre un rajeunissement du personnel et l'embauche de nouveaux dockers, conformément aux règles du droit commun, droit qui s'appliquerait également dans le cas des licenciements. Donc, ils veulent en finir avec l'exception de 1947. Mais en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette offensive patronale va tourner court parce que le gouvernement ne va pas se risquer à détricoter la loi de septembre 1947. Autrement dit, le gouvernement va refuser d'affronter l'omnipotente CGT qui règne sur les quais depuis la loi. Et je laisse la parole à la jeunesse. Bon, prends-le bien.
Alors, l'Union nationale des industries de la manutention, l'UNIM, hein, dont on vous a parlé là assez longuement, a longtemps été partagée entre la volonté d'obtenir l'abrogation de la loi de septembre 1947 et la possibilité de l'aménager localement par le dialogue social. Les tenants de la ligne dure l'emportent à la fin des années 1980. En atteste un courrier du 26 novembre 1990 à destination de l'Union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritime, dans lequel l'auteur, Loïc Kissler, délégué général de l'UNIM, écrit « Il n'y aura jamais, pensons-nous, de conjoncture politique et sociale favorable à une modification de la loi de 1947. Il est donc vain d'en espérer une, mais il n'est pas vain d'agir pour la modifier. » 40 ans après son adoption, le statut de 1947 est rendu responsable de la faible compétitivité et de la moindre fiabilité des ports français. On lui reproche d'avoir mis la Fédération nationale des ports et docks CGT, la FNPD-CGT, en situation de monopole. Devenue la véritable patronne des quais, elle ferait régner sa loi et empêcherait toute réforme de l'organisation du travail. Liquider le statut de 1947 permettrait à la fois de gagner la bataille de la compétitivité et de reprendre concrètement le contrôle des quais. En 1986, Jacques Dupuy-Dauby, ancien PDG de la SCAC, qui est la Société commerciale d'affrètement et de commission, lance l'offensive. L'homme d'affaires s'est vu confier par le gouvernement Chirac une étude sur la compétitivité des ports français et son constat est accablant.
Il faudrait que tu parles plus dans le micro, il semble.
D'accord,
oui. C'est les piles qu'on a chez.
Eh bien,
tu t'es privé de micro.
Tu me le prêtes? Donc le constat est accablant. Quel est ce constat? Le constate Jacques Dupuy-Dauby. Selon lui, la filière portuaire française, avec ses pratiques douteuses et coûteuses, fonctionne selon un mode de régulation opaque et anticoncurrentiel. Jacques Dupuy-Dauby dénonce la complicité de tous les intervenants pour que se maintienne une certaine forme d'archaïsme et de nombreux privilèges, soulignant que ceux-ci ont jugé que la paix sociale coûtait moins cher que le conflit, sans se rendre compte qu'elle, cette paix sociale, se paierait un jour d'un prix exorbitant, celui de la compétitivité. Alors, il y voit le signe d'une sorte de coalition contre une corporation professionnelle, en l'occurrence celle des dockers, fustigeant aussi bien l'État que les corps intermédiaires, à savoir l'UNIM comme la CGT. Il se pose en défenseur des dockers et des clients qu'il considère prisonniers des arrangements entre syndicats et manutentionnaires. Il prend l'exemple des compositions d'équipes pléthoriques imposées par la CGT qui ont fait gagner de l'argent aux manutentionnaires puisqu'ils facturaient les prestations aux clients majorés de frais généraux. Le rapport est donc accablant, mais le gouvernement Chirac, empêtré dans un conflit avec les marins de commerce, n'en fera rien. Le coup de grâce, c'est la gauche au pouvoir qui va le porter. En octobre 1991, Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'État à la mer dans le gouvernement d'Edith Cresson, lance véritablement le chantier de la réforme. Une réforme considérée comme indispensable pour résister à la concurrence que le futur marché unique de janvier 1993 ne fera que renforcer. Il veut aller au-delà d'une diminution du nombre de dockers et précise qu'il n'y aura pas de plan social d'accompagnement au départ d'un certain nombre de dockers sans modernisation de l'organisation du travail et l'accroissement de la compétitivité. Il agit, dit-il, en homme libre et non sous la pression de l'UNIM. Il fixe le cadre de la négociation et menace en disant « Je ne me laisserai pas enfermer dans l'alternative maintien intégral ou abrogation complète de la loi du 6 juin 1947, mais je n'hésiterai pas à proposer le moment venu les modifications législatives nécessaires. » Il ne reste donc plus aux partenaires sociaux qu'à s'entendre. Alors, le mois suivant, les principaux éléments du plan sont connus. La baisse importante du nombre de dockers sera déterminée port par port par le dialogue social, condition sine qua non pour pouvoir bénéficier des mesures sociales d'accompagnement envisagées. Le système national de financement de l'inemploi sera supprimé. Hein, c'est la fameuse caisse de Kenagod dont on vous a parlé tout à l'heure. Afin de ne plus pénaliser les ports les plus compétitifs, comme celui de Saint-Nazaire, qui affiche un inemploi quasiment nul alors qu'il atteint 30% à Nantes. Nantes est en effet un port en crise depuis quelques années, pour des raisons multiples, notamment l'ensablement de la Loire, le développement de la conteneurisation, la perte de certains trafics et puis une mauvaise gestion des effectifs. Enfin, les dockers auront le choix entre le départ volontaire avec accompagnement ou bien la mensualisation dans les entreprises de manutention, ou encore le maintien dans leur statut initial, le tout en fonction des places disponibles, puisqu'il reviendra à chaque port de préciser le nombre de dockers mensualisés ou carte G, pour lesquels il estime avoir suffisamment de travail à offrir. La question de la mensualisation est perçue très négativement par une communauté de dockers très attachée à sa liberté. Ils ont compris que l'adoption de cette loi signifierait la mise à mort des hommes libres, embauchés par le port et mis à la disposition des manutentionnaires via le bureau central de la main-d'œuvre. L'annonce de cette réforme donne lieu à de fortes mobilisations chez les dockers de Nantes comme ceux de Saint-Nazaire, même si la forme de ces mobilisations est radicalement différente. Et donc on va voir justement... Ah, tu vas appuyer sur les boutons. Oui, montrer les photos. Merci. Donc à Nantes... Le syndicat des dockers CGT fait sienne les positions fédérales. De décembre 1991 à l'été 1992, il participe à la stratégie de lutte définie par la fédération, c'est-à-dire 48 heures de grève par semaine. Les syndicats locaux choisissant les jours les plus adéquats, l'objectif étant évidemment de porter préjudice à l'activité des ports lors des pics d'activité. Mais cette fermeté ne doit pas faire oublier que le syndicat a auparavant fait preuve de souplesse, en participant en juin 1987 à l'élaboration d'un plan de compétitivité avec les entreprises de manutention et la direction du port, afin notamment de faire baisser les effectifs dockers de 28% et de ramener le taux d'inemploi de 40 à 30%, afin également de réduire les coûts de la manutention en jouant sur les compositions d'équipes et afin d'apporter de la souplesse dans l'organisation du travail. Ces deux derniers points soulignaient la volonté des employeurs de reprendre la main sur l'organisation concrète du travail en s'affranchissant des règles, des us et coutumes locaux. Autre signe de renoncement, la possibilité de travailler sous la pluie, on en a parlé, est laissée à l'appréciation du transitaire et du manutentionnaire. Plus de flaques témoins. À Saint-Nazaire, la situation est différente. Le syndicat CGT ne croit pas la victoire assurée. Les temps ont changé et ils préfèrent le compromis plutôt que de prendre le risque d'une abrogation pure et simple de la loi. C'est pourquoi il ne participera pas au mouvement de grève et fera entendre sa voix discordante via son secrétaire général Gilles Denigaud, défendant toujours l'intermittence contre une mensualisation qui, selon lui, entraînerait une baisse de la productivité du travail en transformant les dockers en petits fonctionnaires mensualisés. Je vous laisse apprécier l'expression. Alors que leur esprit est basé sur le rendement lié au salaire journalier de l'intermittent. Afin de contraindre les patrons à négocier, le syndicat lancera en février 1992 Atlantique Estuaire Manutention, AEM, une structure commerciale dont les actionnaires sont exclusivement les dockers, afin de concurrencer les 8 sociétés de manutentionnaires présentes à Saint-Nazaire. Si on revient à Nantes, le 10 juillet 1992, un accord est signé. Et il se décline comme suit. On a 73 reconversions, 57 mesures d'âge, 35 mensualisés et 28 dockers qui restent carte G. Ce sont donc les deux tiers des dockers qui sont conviés à disparaître des quais nantais. Pour eux, pour les dockers nantais, la réforme portuaire a bouleversé radicalement leur rapport au métier, à ses us et coutumes. Avant cette réforme, ils se pensaient libres et indépendants, sans autre patron que le port autonome, autrement dit l'État, et donc ils travaillaient au service de l'économie nationale. Depuis, après cette réforme, ils sont des salariés lambda, dépendants d'un patron à qui ils doivent rendre des comptes. À Saint-Nazaire, dès le mois de mars 1992, les négociations ne portent pas sur le statut des dockers, mais sur la transformation d'AEM en société anonyme dont le capital serait détenu à la fois par des manutentionnaires et les dockers. AEM deviendrait Atlantic Service Manutention, ASM, mensualisant une large majorité des dockers professionnels carte G et assurant des prestations de services relatives aux opérations de manutention de toutes les sociétés intervenantes. En décembre 1992, un accord est enfin signé. ASM voit le jour avec à sa direction un représentant élu par les 86 dockers qu'elle mensualise. La saignée est donc moins radicale qu'à Nantes. Donc, la loi de 1947 fut une sorte de loi de circonstance, adoptée en urgence pour fixer un cadre permettant la reprise sereine de l'activité portuaire après la guerre. Comme l'a souligné le sénateur breton Yves Jaouen dans l'hémicycle en août 1947, le projet de loi fut porté unanimement par les entreprises de déchargement et les syndicats de dockers, non parce que le contenu les satisfait, mais pour éviter que la question ne soit reportée à une session ultérieure, ce qui les laisserait dans l'incertitude à l'heure de la bataille de la production et de la reconstruction. Cette loi, ajoute-t-il, n'est pas parfaite. Les deux syndicats voudraient la voir amendée, mais vu l'urgence et en considération de l'intérêt général, ils l'ont acceptée telle qu'elle, se réservant la possibilité de la modifier ultérieurement. Ils regrettent le recours à la procédure d'urgence et signalent que cela aurait pu être facilement évité. Puisque le texte était en chantier depuis de nombreux mois, mais malheureusement, il ne dit rien des points de désaccord. On peut cependant les imaginer, ces points de désaccord. Les employeurs veulent pouvoir disposer d'une main-d'œuvre quand ils en ont besoin. Le gouvernement, lui, veut bien sécuriser le métier, mais sans que cela ne lui coûte. Et les dockers, eux, ne veulent pas d'un encadrement trop strict de leur activité, car ils tiennent à leur liberté.
Tu as fini quand même. Oui, alors bah merci beaucoup. Juste un tout petit mot de conclusion hein, pour faire le lien entre les deux parties, la partie ancienne, ancien régime 19e, et puis la partie des dockers du 20e siècle. Donc, deux tout petits points de conclusion. D'abord, vous avez sans doute vu qu'il y avait des points comparables entre le 20e siècle et les siècles précédents. L'attachement à l'autonomie, le travail en équipe et tout un tas de choses comme ça, la puissance des organisations. On pourrait même comparer peut-être le règlement de 1817, le statut de 1947. Donc, il y a des points communs extrêmement importants dans ces deux périodes. Mais il ne faut quand même pas croire à une continuité complète, puisqu'entre le XXe siècle et le statut de 1947 et l'importance de la CGT et ce que j'ai évoqué au XIXe siècle, il y a ce moment d'âge sombre dans les ports, d'âge de la précarité de la seconde moitié du XIXe siècle. Donc, notre travail d'historien, il a consisté d'une part à travailler dans la longue durée, hein, et ça, c'est tout à fait... être capable de réussir, grâce à des sources exceptionnelles dont on dispose ici, à suivre un métier pendant plusieurs siècles, c'est extrêmement intéressant. Mais il a fallu aussi faire attention à ne pas tomber dans des mythes, le mythe de l'éternité du docker de la préhistoire à nos jours, mais également peut-être le mythe des grands costauds un peu voyous ou le mythe de l'avant-garde de la classe ouvrière depuis la nuit des temps. Hein. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Voilà, merci.
Eh bien, la parole est à la salle pour une vingtaine de minutes, hein, à peu près. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Tu fais passer le...
J'ai la voix qui porte, hein, mais c'est pour l'heure. J'en ai parlé par rapport à l'UNIM.
L'UNIM se plaint, la composition des équipes et le poids des palanquées. Voilà. Voilà, donc du coup, là, évidemment que ça joue. Ils disent concrètement, Samuel, en mettant la petite diapo sur les tarifs, voilà, ils disent il y a un maquis des tarifs épouvantables, on ne s'y repère plus, entre le charbon, le machin, le charbon en poudre, le charbon en cailloux, le charbon de ceci, etc. Et sur les modes de déchargement également, on est resté sur un mode ancien, alors que les techniques ont bien évidemment évolué. Voilà. Et en fait, les dockers, eux, ils disent, mais non, c'est aux travailleurs de bénéficier de ce progrès technique. Avant, il succombait à sa charge. Là, maintenant, le progrès technique l'aide, mais on ne va pas changer à la fois le rythme du travail, etc. Tout ça. Donc, en effet, c'est un enjeu. C'est un enjeu. À qui doit profiter en fait, l'évolution des techniques, quoi ? À l'employeur ou au travailleur ? Mais en effet, ça parcourt tout le XXe siècle, ça.
La question se pose dès le 19e siècle. Avec le 19e siècle, on voit se développer, par exemple, le port s'équipe de grues. Et les portefaix, eux, ne sont pas du tout d'accord pour que des grues travaillent à leur place. Et donc, en octobre 1830, il y a une expédition de portefaix qui vont endommager une grue. Voilà. Et en fait, il faut remonter un tout petit peu en amont pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a un négociant qui a installé une grue. Les portefaix se sont plaints au maire. Et on dit, voilà, le règlement dit, c'est nous qui travaillons. Et donc le maire, lui, il cherche un compromis. Et il dit, voilà, à chaque fois qu'il y aura un sac de farine déchargé par la grue, vous aurez une indemnité. Alors eux, ils disent, non, nous, on préférait quand même travailler parce que l'indemnité, c'est moins que le salaire. Voilà. Et donc le négociant accepte. Et puis, à un moment donné, il n'accepte plus. C'est là, vous voyez, l'autorité, c'est quand le compromis trouvé par le maire n'est plus respecté que les portefaix s'attaquent à la grue. Alors après, ils multiplient les grues et à un moment donné, il y a la révolution de 48. Et là, le maire leur dit non, s'il vous plaît, les grues, c'est pas le moment aux négociants. Là, on a une révolution, on peut pas faire les grues en même temps. Donc ils attendent un peu. Voilà. Et par contre, dans les années 50-60, là, il y a la navigation à vapeur. Donc ils ont besoin que ça tourne beaucoup plus vite. Il y a la concurrence du chemin de fer qui arrive et donc les gens disent, voilà, les négociants disent, mais alors si moi je mets mes marchandises sur un bateau, je dépends de ces gens qui exigent de travailler à 40 avec des vieux, c'est ce qu'expliquait Christophe et Emmanuela, ça existe déjà, alors que si je les mets dans le train, mes concurrents les mettent dans le train, ils n'ont pas tous ces problèmes là voilà. Donc ça, c'est des arguments qui dans les années 60 vont être utilisés par les négociants contre, pour remettre en cause le compromis qu'ils avaient construit, enfin qu'ils avaient souhaité en 1817. Et les discours patronaux sur la compétitivité, quand vous les lisez en 1992 et quand vous les lisez dans les années 1860, ils se ressemblent beaucoup en fait. Voilà.
Sur la containerisation. Ah oui, d'accord, c'est moi qui cause. Oui, non, mais elle a failli être embauchée sur le port de Saint-Nazaire. C'est vrai, du fait de la containerisation. Avant, le métier était extrêmement physique. Aujourd'hui, c'est des containers qui arrivent, donc il suffit d'accrocher, entre guillemets, les containers et de les soulever, etc. Et donc, un docker a dit, a regardé Manuela, il lui a dit, tu pourrais être docker. Voilà. C'est pour dire que le métier a évolué. En effet, on ne réclame plus des costauds, quoi. Pour poursuivre un peu, je vais vous citer juste un exemple sur les méthodes de travail. Les dockers dépendent beaucoup du grutier. Et certains dockers aiment bien quand le grutier, il tape dedans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un grutier qui tape dedans ? C'est un grutier qui est capable de faire balancer son crapaud pour aller taper contre les parois du navire et faire tomber en fond de cale, par exemple, le sucre qui s'est solidifié ou encore le charbon. Pourquoi ? Parce qu'autrement, ça veut dire que le docker, il est accroché un peu le long des parois et il pique avec une pique le charbon pour le faire tomber. C'est épuisant, etc. Donc du coup, il y a tout un travail qui est interdit, pour des questions de sécurité, où ils demandent aux grutiers de taper dedans pour leur faciliter le boulot. Voilà. Mais là encore, c'est parce que l'intérêt pour eux, c'est de gagner du temps, évidemment, parce que le temps, évidemment, c'est de l'argent. Alors aujourd'hui, c'est maintenant on dit le conteneur. Le conteneur a tout ravagé, a tout gagné, etc. Donc les palanquiers, ils n'en existent plus, je crois pas. J'en ai pas vu depuis fort longtemps. C'est des conteneurs tout simplement qui arrivent sur des bateaux et qui terminent sur un camion et voilà. Oui. Voilà. Tout a été mis, y compris même le bois. Avant, on était un port à bois extrêmement important. Aujourd'hui, ils découpent ça en tronçons, ils mettent ça dans des containers, et ça arrive à Saint-Nazaire, et ça même plus, enfin, ça plus besoin d'arriver à Nantes, quoi. Voilà. Donc, c'est le port à bois est d'une tristesse folle depuis de nombreuses années. Ah, les vracs.
Ouais, d'accord.
Les vracs continuent, mais en container. Ouais. Pardon? Maintenant, oui, du coup, il n'y a plus de vraquiers comme on l'entendait à l'époque. Voilà. Ce qui faisait le bonheur, d'ailleurs, des dockers, ils adoraient les vraquiers, parce qu'il y avait toujours des opportunités qui s'offraient à eux, voilà, en fonction du contenu du vraquier. Aujourd'hui, non, en effet, le conteneur a tout avalé, voilà, avec tous les problèmes, parce que bien souvent, pour protéger les marchandises, on les asperge de cochonneries chimiques, et forcément, qui s'en prend plein les naseaux, les dockers, les douaniers, etc. Et les manutentionnaires qui déchargent.
Oui, merci pour vos présentations. Vous avez évoqué une équipe de Bretons. Est-ce qu'on a des origines géographiques des dockers et si on transparaît des vagues de migration éventuellement ou de migrants qui viennent chercher du travail dans ces professions.
Moi, à ma connaissance, les Bretons, c'était des Chantenaisiens, voilà, qui n'étaient pas du tout appréciés sur les quais. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient pas très à gauche, on va dire. Très égoïstes, et plutôt catholiques, conservateurs, réac, etc. Donc, les Bretons, ils n'avaient pas la cote sur les quais. Voilà. Mais autrement, est-ce qu'ils étaient de vieilles souches, peut-être ? Parce que ce système de classement, il est assez vieux, hein, sur le port nantais. Alors, il a dû être rénové quelque peu après la Seconde Guerre mondiale. Mais globalement, il y avait quand même des équipes. Hein, ça, on retrouve un peu ce que tu dis, explique, sur les temps anciens, hein, où certains groupes avaient le monopole sur certains quais. Ben, à Nantes, c'était un peu pareil, quoi. Mais donc, les Bretons étaient pas très appréciés.
Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un étranger au XVIIIe siècle pour un portefeuille ? Eh ben, un étranger, c'est le gars du quai d'à côté. Voilà. Il n'a pas à venir sur mon quai. Ça s'arrête là. Donc, c'est ça une des grandes différences. C'est qu'il y a des organisations puissantes, mais qui sont longtemps restées émiettées. Hein, voilà. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect aussi, au XIXe siècle, on voit apparaître, c'est que dans ce moment un petit peu de compromis, hein, que j'ai décrit, on voit apparaître à la tête des organisations de portefaix des gens qui se détachent du métier et qui, en fait, deviennent, on les appelle les syndics, mais plutôt que d'être des représentants d'une organisation ouvrière, ça devient un petit peu des intermédiaires entre la mairie qui fait la police et les patrons. Et ces gens-là, certains vont avoir tendance à exploiter le monopole dans leur profit à eux et à se faire marchands de bonhommes. Et donc, on a une révolte des portefaix d'un groupe qui dit « Dans notre syndic, on n'en veut plus. » Il refuse d'embaucher des enfants de portefaix. Et il va chercher des gens de la campagne qui se font complètement avoir parce qu'ils ne savent pas à quoi ils ont droit. Voilà. Voilà.
Et sur le côté très localiste des dockers, il faut savoir qu'au fur et à mesure des décennies, après 1945, c'était impossible de faire bosser des Nantais sur les quais nazériens, par exemple. Certainement pas. Et même quand il y a eu Cheviré qui s'est monté, il y en a certains qui disaient « aucun docker n'ira bosser à Cheviré ». Alors pour des raisons, parce qu'il y avait un attachement au quai de Nantes, au quai des Antilles, etc. Mais aussi, il y avait la dimension, bien souvent, ils n'ont pas de moyens de locomotion. Donc ça veut dire, si je dois aller bosser à Cheviré, ça veut dire qu'il faut que j'ai une mobilette, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Il y a plein de, voilà, il y a plein de contraintes qui fait qu'ils étaient vraiment attachés au cœur de la ville, quoi, pour leur activité économique et de travail.
Bonsoir. Vous avez donc évoqué l'indemnisation pour inactivité longue au régime de 47. Est-ce que c'est par le régime général ou est-ce que c'est une caisse spéciale ?
Oh, une question de juriste. C'est une caisse spéciale. C'est-à-dire c'est une taxe. Hein. C'est une taxe qui est prise sur chaque docker employé et qui va gonfler une caisse nationale, et ensuite chaque port verse un petit pécule aux dockers qui n'ont pas trouvé à s'embaucher. Voilà. Donc, et c'est la CNAGOD, leur caisse nationale de gestion, etc., etc., qui verse ça. Et c'est pour ça qu'en 91, certains disent qu'il faut en finir avec ce système, parce qu'il y a des ports qui font des efforts, comme Saint-Nazaire, qui ont un trafic régulier, il y a peu d'inemploi, et Nantes qui périclite, et où certains disent qu'il y a eu certaines... Bon, on faisait rentrer le frère, le fils, le cousin, etc., sur les quais, de façon un peu inconsidérée, alors que le port était en difficulté. Donc, c'est une façon de responsabiliser les places portuaires en liquidant cette CNAGOD, qui était un système de solidarité nationale. Voilà. Donc, on liquidait la solidarité nationale en demandant à chaque port d'être d'une certaine façon rentable. Voilà. Voilà, c'est ça. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Tout est dit. Non, parce que c'est pas lié au volume d'heures travaillées, par exemple. Le statut, il est lié à ça, il faut faire 43 cachets, je sais plus, enfin, ça évolue tellement dans un mauvais sens que, voilà. Non, là, c'est par contre, tu es docker professionnel, tu viens sur le quai, t'as pas trouvé d'empoche, tu repars avec 20 francs, 30 francs, etc. Voilà, que tu y penses comme tu veux. Et certains dockers disent que... Certaines femmes de Dunkerque ont découvert très très tard l'existence de cette indemnité qui était rapidement bue sur le quai plutôt que rapportée à la maison pour faire les courses. Certaines ont assez peu apprécié la gestion par les dockers eux-mêmes de cette indemnité.
J'avais une question concernant les portefaix au moment de la Révolution. Est-ce qu'ils étaient, j'imagine que oui, sans culotte, et est-ce qu'ils étaient adhérents au club Vincent de la Montagne ou ils étaient plutôt apolitiques ?
Alors, le club Vincent La Montagne, malheureusement, on n'a pas la liste des adhérents. Ce serait quelque chose de très intéressant. Donc, quand on veut s'intéresser à la politisation, il faut qu'on aille chercher autre chose à Nantes. Par exemple, la garde nationale. Et donc, ils peuvent être dans la garde nationale. Mais en fait, ils n'ont pas de comportement particulier, si vous voulez, à ce moment-là. Il y a quelques petites fois où ils essayent, mais bon, c'est un peu, comment dire ça, qu'on les trouve dans la garde nationale, on les trouve dans les volontaires nationaux qui partent au front, etc., mais il ne faut pas les imaginer comme super sans-culotte en 92, c'est-à-dire déjà la préfiguration de ce qu'ils seront au XXe siècle dans la CGT. Il n'y a pas d'histoire linéaire comme ça. Hein, voilà. Il y a juste une fois où c'est assez intéressant, mais là, c'est vraiment... l'exploitation hein, de voilà, c'est les dockers, alors dans mon souvenir, mais ça je sais plus trop, je suis plus sûr de moi, c'est les dockers de la fosse qui disent en mars 93, au moment où il y a l'insurrection contre la levée des 300 000 hommes, donc ce qui va après devenir la Vendée, mais c'est une insurrection qui existe un peu partout hein, autour de Nantes, ils disent voilà, les portefaix de Chantenay, c'est des contre-révolutionnaires. Hein. Et donc, surtout, ce qu'il faudrait faire, c'est leur interdire de venir travailler à la fosse. Mais on sent que derrière, ils utilisent l'argument politique comme pour renforcer leurs prétentions au monopole. Je continue un tout petit peu. Et donc, par exemple, dans la révolution de 1830, en octobre, vous voyez, il y a cette expédition contre une grue. Hein. Mais ils ne sont pas très présents dans la révolution de juillet. Nantes, en juillet 1830, c'est la seule ville de province dans laquelle il y a des morts. Mais ils ne sont pas très présents. En 1836, il y a un grand mouvement social à Nantes, il y a une grande grève des maçons, et les tailleurs d'habits, qui sont organisés dans des sociétés révolutionnaires, veulent être solidaires. Ils lancent un mouvement, des souscriptions, etc. On ne trouve pas tellement les portefaix. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce qu'ils sont, en fait, on pourrait dire que c'est une sorte de contradiction. Ils sont tellement solidaires entre eux qu'ils en sont devenus fermés. Et donc, l'une des grandes différences entre les portefaix anciens et les portefaix du XXe siècle, ça va être cet élargissement au mouvement ouvrier, ce qui n'empêche pas de cultiver un certain particularisme, une certaine originalité. Hein, voilà. Mais il y a peut-être plus de solidarité avec d'autres métiers qui n'existaient pas auparavant. Voilà.
Deux anecdotes sur la politisation. J'adore les anecdotes, j'ai le droit, non ? Sur les dockers, il y a un docker nantais, son surnom, c'était Georges Marchais. Autant vous dire que ça veut dire que la présence des communistes sur les quais n'était pas très grande. Sinon, il y aurait eu des dizaines et des dizaines de Georges Marchais. Le docker, on a toujours, on lui a collé une étiquette, il est CGT, il est PCF. Il y en avait qui votaient PC, mais la plupart ne votaient pas PC ou ne votaient pas du tout, etc. En tout cas, il y en a un qui était affublé du surnom de Georges Marchais, parce que ça veut dire peut-être qu'il était un peu plus pugnace que les autres. Voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais dire après, mais de toute façon, je cause trop.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a des différences entre les dockers de Nantes et de Saint-Nazaire et puis ceux des autres ports français ? Marseille, Bordeaux
Est-ce que c'est une question, En deux minutes ? Ouais, ouais. Non, sur Nantes et Saint-Nazaire, il y a évidemment le conflit de 91-92 dont Manuel a parlé, qui a été très clair. Gilles Donigo, c'est un personnage. Donc, il prend la tête du syndicat CGT et il vire, entre guillemets, la direction qui était plutôt liée au Parti communiste. Et lui, il est plutôt issu des courants, du courant libertaire, économie distributive, etc. etc. Nazériens et Nantais, mais ça, je ne vous apprendrai rien, ont du mal à s'entendre, à la fois sur le terrain syndical, sur le terrain politique, etc. Chacun ses spécificités et chacun reproche à l'autre de ne pas avoir été très généreux. Notamment, alors je crois que c'est pendant la Première Guerre mondiale où le port, je crois, nazérien était extrêmement florissant et à Nantes, ce n'était pas le cas. En 1945, c'est différent. Vous voyez, il y a plein de rivalités comme ça, quoi. Voilà. Donc chaque port a sa propre identité, sa propre tonalité. Et c'est pour ça que le conflit a été dur en 91-92. Parce que les Marseillais, je crois, ils ont signé un accord, mais en 93 ou 94. Voilà. Parce que c'est puissant, Marseille, quoi. Et puis c'est un certain syndicalisme aussi. Hein. C'est un immense port, c'est comme le Havre, etc. Et puis il y a d'autres ports beaucoup plus moyens, comme Nantes, comme Boulogne, etc. Donc c'est pas les mêmes réalités, c'est pas le même vécu. Et puis voilà. Mais donc des histoires très différentes.
Alors, pour vous répondre sur Saint-Nazaire au XVIIIe siècle, je suis tranquille, hein, parce qu'il n'y a rien, donc il n'y a pas de port. Donc voilà, donc moi je vais essayer de dire un mot sur Nantes et les autres. Des organisations de portefeuille qui cherchent à avoir un monopole, sous l'Ancien Régime, on en trouve partout en fait. Voilà. Et il y a aussi des expériences de régulation qui prennent des visages un peu différents, mais qu'on retrouve partout à l'issue de la Révolution française. Et cet âge de précarité générale sur les quais de la seconde moitié du XIXe siècle existe aussi à l'échelle nationale. Donc il y a des spécificités locales, mais il y a quand même des rythmes nationaux. Voilà.
Le niveau de formation scolaire, etc., quand est-ce qu'il y a eu à un moment donné une formation professionnelle ?
Je demandais la question du niveau de formation. Est-ce que, par exemple, ils avaient, y compris, ils savaient lire au début du XXe siècle, etc. Et est-ce qu'il s'est mis en place une formation professionnelle ou pas ?
Alors, c'est un peu compliqué. Globalement, au début du XXe siècle,
comme dit la presse bourgeoise, les dockers, c'est un troupeau de déclassés. C'est la lie, le lumpen prolétariat qui descend sur les quais pour trouver du boulot. C'est pas très intéressant, c'est des alcooliques. C'est l'image qui est renvoyée. Alors après, quand on regarde ceux qui forment le syndicat, il y a François Béagel, c'est tous des gens qui sont issus, par exemple, de la métallurgie, ont été apprentis forgerons, etc. Et qui sont retrouvés sur les quais pour raison X ou Y. Donc certains ont des diplômes. Nous, on a rencontré quelqu'un, comment il s'appelle, Führer numéro 2. Il y avait Führer numéro 1 et Führer numéro 2, qui était un cogneur. Lui, il était plâtrier. Voilà. Il y en a d'autres qui venaient du bâtiment. Il y a beaucoup de gens du bâtiment. Beaucoup de fils aussi d'agriculteurs, hein, parce que il fallait une force physique, etc. Mais après, il y avait pas de on apprenait sur le tas. Et ce qui est important, et ce qu'on écrit beaucoup dans Les Hommes Libres, c'est l'auto-surveillance et vraiment de tous les dockers pour les autres, quoi. On fait attention, on apprend aux copains à comment se déplacer sur les billes de bois, à faire attention, les dangers, etc. Mais il y a eu des tentatives de former, notamment quand arrive la mécanisation. Voilà. Mais globalement, c'est resté un métier qui s'apprend sur le tas, quoi.
Pas de CAP, pas de BEP, pas de bac pro.
Oui, par contre, à Saint-Nazaire, ils ont développé ça, en effet. Ouais. C'est une des volontés, une sorte de montée en gamme du métier, montrer que c'est un véritable métier et non pas quelque chose qu'on fait parce qu'on ne peut pas trouver ailleurs, quoi. Voilà.
Pour répondre sur les temps un peu plus anciens, c'est ce qui est tout à fait normal sous l'Ancien Régime et encore au XIXe siècle, c'est de faire le même métier que son père. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait le même métier que son père, que tout le monde meurt dans le même village, etc. C'est pas, la société est ouverte, mouvante, etc. Mais c'est une, sous l'Ancien Régime, c'est une chose tout à fait normale que de faire le même métier de son père. Le roi fait le même métier que son père, un artisan fait le même métier que son père, un noble fait le même métier que son père, un portefeuille fait le même métier que son père. Et donc, ils sont persuadés d'avoir un droit. Hein. Les places sont héréditaires, disent-ils. Et puis, ils renvoient ça aussi à la qualité de la formation. Je sais bien faire le métier parce que je l'ai appris en famille. Or, si vous allez recruter quelqu'un qui ne l'a pas appris de son père, il va être en danger, il va mettre tout le monde en danger. Donc c'est un argument vrai qui est aussi une justification du monopole qu'ils peuvent exercer alors, à l'échelle de la famille, puis du groupe sur un quai. Voilà.
Dans les années 40-50, ça fonctionne à la cooptation. On commence par être occasionnel et puis on demande à devenir un ouvrier docker professionnel. Et là, on passe devant une commission où il y a à la fois des représentants des patrons, des représentants du port et des représentants des dockers. Et là, le truc, c'est, voilà, c'est quelqu'un de fiable. Il vient sur les quais en tant qu'occasionnel. Il était là souvent. Il a donné plein de satisfaction, etc., etc. Et puis après, c'est une question aussi certainement de rapport de force. Mais en effet, le côté familial joue beaucoup. Mon père était docker, mon grand-père était docker, etc., etc. Ça facilite les choses. Mais c'est pas automatique non plus. D'autant que le métier a tendance à... Enfin, les effectifs baissent, quoi, aussi.
Juste une toute petite formule. Dans les années 1830, il y a un portefeuille, enfin un jeune homme qui porte le même nom que son père, le même nom, le même prénom, et qui n'arrive pas à se faire embaucher dans le groupe. Donc il écrit au maire pour dire que ce n'est pas juste. Et il écrit au maire, alors c'est lui ou c'est quelqu'un qui le fait écrire à sa place, et il a cette magnifique formule, « Je suis portefeuille de père en fils ».
Voilà, donc si vous avez des sous, à partir du 17 octobre, dans toutes les bonnes boucheries, etc., vous avez Docker, une histoire nantaise, travailler, lutter sur les quais. Voilà, je vous le conseille, hein, il est pas mal du tout. Et puis, si vous avez encore plus de sous, ça date de 2018, il est moins historique, il est plus sur des anecdotes, etc. Ça s'appelle Les Hommes Libres. Et c'est en vente, bien sûr, dans les librairies et au Centre d'Histoire du Travail. En tout cas, merci d'être venus nombreux à cette rencontre. À bientôt.